Bien, je vous propose de démarrer cette conférence. Je vous remercie de votre présence ce soir, d'avoir bravé la concurrence d'un match de football France-Brésil. Donc, vous voyez que chaque personne qui est présente a une grande valeur ce soir. En tout cas, merci beaucoup d'être présent. Nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Gauthier, qui est professeur à l'Université Laval à Québec, parce que c'est une erreur qu'on fait fréquemment en France de penser que l'Université Laval est à Laval, alors que Laval est à côté de Montréal. Là, l'Université Laval est à Québec. Et donc, il a un titre qui est très ramassé, qui est la science ou les sciences de l'infocom. Donc, n'étant pas spécialiste du domaine, j'ai quand même pu discerner qu'on allait parler d'information et de communication et d'interrelation entre les deux. Eh bien, d'ici un petit moment, je pense qu'on en saura tous un petit peu plus. Gilles Gauthier est ici à l'invitation de l'Université de Poitiers où il délivre une trentaine d'heures de cours. Et puis, et ça c'est un grand plaisir pour l'Espace Mendès France, il allie aussi une information vers un public qui est peut-être moins spécialisé que les étudiants qu'il a en face de lui, en règle générale, ou pas, mais en tout cas, c'est une ouverture que nous apprécions particulièrement. En tout cas, merci de venir pour la deuxième année consécutive faire une conférence sur un thème différent, d'ailleurs. Donc peut-être qu'on peut compter sur vous pendant 15-20 ans avec chaque fois une conférence différente. Sait-on jamais?
Faudrait m'inviter.
Pas de problème. Ça, l'invitation, on la maintiendra. Merci beaucoup.
Bien, merci d'abord à toutes et à tous d'être présents. J'ai remarqué tout à l'heure que dans le programme des activités de Mendès France, le titre de la communication était un peu brut, les sciences de l'infocom. C'est de ma faute. Dans le titre que j'avais communiqué, le titre total que j'avais communiqué, il s'agissait davantage du sous-titre. Et donc a été escamoté le véritable titre de mon exposé, qui cependant figurait bien dans les petites affichettes. Je ne sais pas, les étudiants, si vous avez vu la petite affichette en question, mais le véritable titre de mon exposé est le suivant: Les effets de l'extension de la communication au détriment de l'information. De façon pointue, c'est de cela dont je veux vous entretenir, beaucoup plus que trop largement des sciences de l'infocom. Alors, mon exposé suivra un développement en trois temps, si vous voulez. Je commencerai par exposer ce qui m'apparaît être deux traits saillants du débat public tel qu'il est mené aujourd'hui. Si vous voulez, deux traits saillants de la discussion, de la façon dont sont discutés aujourd'hui les enjeux sociaux. Ces deux traits saillants, je les annonce tout de suite pour revenir tout à l'heure et les caractériser davantage. Une prédominance de l'expression de conviction sur l'argumentation et un passage de l'éthique au moralisme. Ce sont ces deux traits-là que j'espère pouvoir vous faire voir avec plus de précision. En un deuxième temps, j'avancerai l'hypothèse que ces deux traits saillants du débat public trouvent leur origine précisément dans l'extension de la communication au détriment de l'information, que je caractériserai plus finement. Et puis finalement, je terminerai en cherchant à étayer cette hypothèse, essentiellement en mettant en évidence une différence, une distinction entre l'information et la communication, qui m'apparaît occultée la plupart du temps, une différence qui est relative à leur rapport distinct à la réalité. Et vous voyez, en quelque sorte, la thèse que je vais soutenir, c'est que c'est en raison de ce rapport distinct à la réalité des deux registres de la communication et de l'information que l'extension contemporaine de la communication au détriment de l'information entraîne les deux effets que je qualifie comme très saillants du débat public, la prédominance de l'expression de conviction sur l'argumentation et le glissement de l'éthique au moralisme. Alors, le premier point, les deux très saillants. Le tout premier, la prédominance de l'expression de conviction sur l'argumentation. On s'attend, il y a une certaine attente sociale, à ce que les prises de position sur les problèmes sociaux, dans la discussion des enjeux sociaux, soient relèvent de quelque façon d'une certaine rationalité, qu'on y fasse preuve de démonstration et de rigueur, en fournissant minimalement un fondement aux interventions publiques que l'on se risque à prendre dans ou au sujet des débats publics. On peut admettre que les interventions sur les questions d'intérêt public tiennent compte d'a priori théoriques et même de partis pris idéologiques, mais on exige néanmoins que ces a priori et partis pris soient de quelque façon motivés. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, ce que je veux avancer, c'est que cette exigence est malmenée. Que très significativement, les contributions au débat public se font moins sur le mode de l'argumentation que sur celui de l'expression d'opinion, je veux dire par là, sur relativement à la perception immédiate, à l'impression intuitive, à la pensée spontanée, aux sentiments et aux préférences de nature pré-réflexive. En somme, sans que véritablement il y ait une articulation rationnelle et sans souci de justification. Alors, je pense avoir trouvé un indice de cette prédominance de l'expression de conviction sur l'argumentation dans des études sur l'argumentation éditoriale que je mène depuis un certain nombre d'années. Sans l'avoir vraiment cherché au point de départ, j'ai été amené à établir une certaine mesure de la part argumentative dans les éditoriaux des grands quotidiens chez nous. J'ai fait quelques analyses sur des quotidiens, en partie du moins, sur des quotidiens et des magazines français, mais pour l'essentiel, mon corpus est essentiellement québécois. Et j'ai donc été amené à établir une certaine mesure de la part argumentative dans ces prises de position que sont les éditoriaux. À partir d'une définition simple de l'argument, qui est celle-ci, parce que pour établir une mesure de la part argumentative, il faut bien sûr, au point de départ, retenir une certaine définition de l'argument. Alors, la définition de l'argument que je retiens est, je la schématise, de la façon suivante. Un argument, c'est l'ensemble articulé d'une proposition sur une justification, d'où le schéma de P sur J. C'est une définition de l'argument qui n'est pas du tout originale. Elle est en correspondance tout autant avec l'usage de l'argument, l'usage quotidien, l'usage ordinaire, que tout un chacun fait dans la vie de tous les jours de l'argument. Elle est aussi en correspondance avec des définitions qui sont données de l'argument dans des manuels de logique, dans des traités de l'argumentation. Elle comporte cependant, me semble-t-il, un certain nombre d'avantages. Je veux dire, il est avantageux de définir l'argument en termes de proposition et de justification plutôt qu'en d'autres termes. L'un des grands avantages de cette définition est qu'elle permet d'incorporer le raisonnement dans l'argumentation sans avoir à réduire l'argumentation au raisonnement. Ce qui est souvent le cas quand on cherche à considérer le rapport entre argumentation et raisonnement. Vous voyez, ce que je cherche à dire, c'est la façon habituelle qu'on a de définir le raisonnement, prémisse-conclusion, peut être intégré à cette définition sans que nécessairement l'ensemble de l'argumentation soit réduite au raisonnement. En quelque sorte, un raisonnement, c'est une sorte d'argument, une sous-classe de la classe générale des arguments. Un second avantage de la définition, c'est que ça nous permet de distinguer l'argument de ce que j'appelle la simple opinion. Parce qu'il est tout à fait possible d'avancer une proposition sans qu'elle soit appuyée sur une justification. J'ai un argument quand j'ai l'ensemble de la proposition et de la justification. J'ai une opinion quand j'ai une proposition non appuyée sur une justification. J'utilise le terme d'opinion pour désigner ce cas d'espèce, cette possibilité d'avoir une proposition non appuyée. J'utilise le terme d'opinion de façon ici arbitraire. C'est un des sens possibles d'opinion, ce n'est pas le seul. Je ne tiens pas nécessairement à ce que ce soit ce terme qui me serve à désigner cette possibilité. C'est le terme que j'ai trouvé jusqu'à maintenant le plus adapté pour ce faire. Si on me proposait un terme qui serait aussi bon ou meilleur, je pourrais abandonner le terme d'opinion. En appliquant cet appareillage théorique relativement simple, on constate que la prise de position éditoriale est, dans les faits, argumentée globalement la moitié du temps seulement. C'est-à-dire qu'en l'appliquant à des corpus d'éditoriaux, on se rend compte que la proportion, en fait, la proportion entre argument et opinion varie dans une fourchette de 40 à 60. Quelquefois à l'avantage des arguments, il va y avoir dans un corpus donné 60 % d'arguments, 40 % d'opinions, la plupart du temps, quelque part entre 40 et 60 plutôt à l'avantage des opinions, c'est-à-dire, encore une fois, des propositions avancées sans fondement, sans justification. Donc, quand ils prennent position, les éditorialistes le font plus en opinant qu'en argumentant. Plus en opinant, c'est-à-dire en étalant simplement leur point de vue, qu'en argumentant, c'est-à-dire en offrant un fondement à ce point de vue. Les quelques études d'intervention publique autres que celles des éditoriaux que j'ai amorcées donnent à voir exactement le même constat. On peut même trouver des cas assez extrêmes de polémiques à ce point controversées qu'elles sont tout à fait vides d'arguments. J'ai ainsi analysé le débat public qu'avait suscité la proposition de Nicolas Sarkozy lors des élections présidentielles, les dernières élections présidentielles de 2007, la proposition de Sarkozy de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. J'ai examiné la proposition en tant que telle, les interventions de ceux qui l'appuyaient, ainsi que les interventions de ceux qui s'y opposaient. Zéro argument de part et d'autre. Un débat parfaitement vide de sens, qui, bien sûr, comportait des prises de position, mais toutes, cristallisées par des opinions plutôt que par des arguments. Mais ce n'est pas tout. Il se trouve aussi que nombre d'arguments des corpus éditoriaux se retrouvent en fait dépendants des opinions. Je veux dire par là, structurellement dépendant des opinions. Voici pourquoi. Les arguments et les opinions, dans les éditoriaux, comme dans toutes les autres formes de discours, ne sont pas des électrons libres. Les arguments et les opinions sont agencés en une certaine structure qui est d'ailleurs désignée par le terme d'argumentation. L'argumentation, c'est un de ses sens, désigne l'agencement global des arguments et des opinions dans un discours. L'un des modes d'agencement entre arguments et opinions, très fréquent, résulte du fait qu'une justification, que la justification d'une proposition peut également, par ailleurs, être aussi une proposition. En quelque sorte, la justification d'une première proposition va être aussi, par ailleurs, elle-même une proposition. On peut appuyer, fonder une proposition sur une autre proposition. Exemple, le gouvernement doit agir, la situation est grave. Le gouvernement doit agir parce que la situation est grave. Le gouvernement doit agir. La situation est grave, cette autre proposition, la situation est grave, dans le contexte discursif que je viens d'évoquer et la justification de la première proposition. La proposition secondaire, servant de justification à la proposition principale, peut, par ailleurs, comme cette dernière, soit être appuyée, soit ne pas être appuyée sur une justification. Conséquemment, on peut se retrouver avec la double possibilité suivante. Soit que P2, ma proposition secondaire, appuyant ma proposition primaire, est aussi appuyée sur une justification, soit P2 se retrouve sans justification. C'est l'une des deux possibilités. Selon le cas, nous aurons soit un doublet d'arguments, deux arguments interreliés, soit plutôt la liaison d'un argument à une opinion. Dans ce dernier cas de figure, l'opinion, en quelque sorte, joue le rôle de fondement de l'argument, dans la mesure où la proposition qui en est constituante sert de justification à l'argument. D'une certaine manière, alors, l'argument n'est pas plus d'ordre démonstratif qu'une simple opinion. Il repose bien sûr sur une justification, mais il se trouve que cette justification n'est elle-même pas appuyée, à titre de proposition, sur une justification. La justification de l'argument est en quelque sorte aussi friable, aussi peu sûre, que lorsqu'une proposition se retrouve sans justification. On rencontre cet arrangement chez bon nombre, beaucoup d'arguments des corpus éditoriaux que j'ai analysés, et leur dépendance à des opinions rend l'argumentation de ceux-ci encore plus fragile. Pour vous donner un ordre de grandeur qui est réel, enfin dans certains corpus, si vous avez dans un corpus donné, ou même dans un éditorial donné, 50% d'opinions, 50% d'arguments, mais que 40% de vos arguments dépendent structurellement d'une opinion, vous venez de faire grossir à 70% la totalité ou la somme des arguments, des opinions et des arguments dépendant des opinions. La possibilité d'une dans certains cas, cet effet est d'autant plus pernicieux qu'il reste obscur, dans la mesure où il se situe uniquement au niveau plancher de l'argumentation. Car la possibilité que la justification d'une proposition soit elle-même une proposition, cette possibilité est itérative, au sens où elle ne se produit pas nécessairement seulement au deuxième niveau, mais à tous les niveaux subséquents jusqu'au niveau plancher de l'argumentation. Autrement dit, on peut retrouver la structure suivante. Un premier argument dont la justification est une proposition qui comporte lui-même une justification, elle-même une proposition, qui repose sur une justification, elle-même une proposition. Et il faut bien comprendre que les P, c'est pour ça que je les numérote différemment, sont évidemment de nature distincte. On ne peut pas avoir relativement à ce mouvement une régression à l'infini. Il y a fatalement un niveau plancher. Ne serait-ce que parce que le discours est clos, on arrête de parler ou on arrête d'écrire, même dans l'argumentation du discours. Fatalement, il y aura donc un niveau plancher. Mais s'il arrive que la proposition de niveau plancher ne soit pas, elle, appuyée sur une justification, autrement dit, si je complète mon schéma comme ceci, j'aurai une opinion qui vient fragiliser toute la série ou la chaîne d'arguments qui la supporte. Ces différents exemples conduisent au même constat, ou pointent en tout cas vers le même constat, en dépit du fait que l'argumentation soit aujourd'hui fortement valorisée, son usage n'est pas aussi vigoureux que ce à quoi on pourrait s'attendre, et son recours dans l'espace public est souvent précaire ou incertain. En fait, l'argumentation cède plus souvent le pas à la simple expression de point de vue.
dans beaucoup de débats publics, on se satisfait d'avancer son avis, de notifier sa conviction, de laisser éclater son indignation sans nécessairement argumenter. Tout se passe comme si, en quelque sorte, d'un point de vue très général, tout se passe comme si la reconnaissance de la liberté de parole et de la liberté d'expression se limite aux privilèges qu'elle confère, sans qu'il soit tenu compte des exigences quant à son exercice. J'en arrive au second trait saillant du débat public, le passage de l'éthique au moralisme. Je voudrais l'ancrer en référence à un paradoxe qui frappe l'éthique, un paradoxe qui n'est pas très souvent relevé, un paradoxe entre, d'une part, l'appel à la liberté, à la conscience, à la responsabilité, si vous voulez, l'appel à l'individu qu'il y a nécessairement en éthique, qui distingue d'ailleurs l'éthique du droit ou de la déontologie. On est face à un problème éthique qui n'est pas un problème légal, qui n'est pas un problème de déontologie, quand précisément, de façon importante, on fait appel à la liberté de l'individu. Ce qui fait d'ailleurs que la détermination sur un problème éthique peut être variée, hein, peut varier d'un individu à l'autre. Alors, le paradoxe que je cherche à pointer, c'en est le premier terme, hein, l'appel à la liberté, à la conscience. Le second terme, c'est le renvoi à l'universel qui est aussi présent et constitutif de l'éthique. Quand j'adhère à un point de vue éthique, à une valeur, à un principe éthique, à une prescription éthique, je ne la reconnais pas seulement pour moi-même. Je lui reconnais en quelque sorte une valeur indépendante de moi. On pourrait être porté à dire une valeur objective. En tout cas, une valeur en vertu de laquelle je voudrais que la prescription éthique ou que le choix moral que je fais s'applique à tous. Tension vers l'universel ou universalisme de l'éthique. L'éthique n'échappe pas à ce paradoxe. Toute l'éthique est cette tension entre les deux termes de ce paradoxe, l'appel à l'individu, à la liberté individuelle, et cette lancée vers l'universalisme. Il y a passage de l'éthique au moralisme quand est brisé l'équilibre des deux termes de ce paradoxe au profit de la subjectivité. Cela peut se faire, entre autres choses, dans l'inflation de la recherche du sens. Je voudrais exemplifier ce que j'entends par inflation de recherche du sens en faisant état des chroniques, des positions qui ont été prises chez nous, peut-être ici aussi, à l'occasion de la tuerie récente à Tucson aux États-Unis. Alors, les éditorialistes, les chroniqueurs, les autres intervenants dans l'espace public qui ont voulu se prononcer sur cette tuerie, l'ont fait suivant deux lignes explicatives. La première cherchait à mettre en évidence un lien entre la tuerie et la rhétorique incendiaire du Tea Party et des républicains extrémistes. Et la deuxième cherchait à mettre en évidence un lien avec ce qu'on a appelé la culture des armes, c'est-à-dire la possibilité aux États-Unis du port d'armes assez libéral, généralisé. Dans les deux cas, les prises de position restaient sur des affirmations gratuites, c'est-à-dire sans chercher à démontrer le lien, comme s'il allait de soi. D'ailleurs, incidemment, certains qui privilégiaient l'un des liens critiquaient le second, ou en tout cas relativisaient le second, comme s'il y avait nécessairement un choix à opérer entre les deux. Dans les deux cas, la recherche du sens caché, la tuerie est en soi ou apparaît en soi inexplicable, tellement qu'on va rechercher un sens du côté des deux lignes explicatives que je viens de mentionner. Dans les deux cas, ça procède d'un refus de l'accident, comme si ce qui s'était passé ne pouvait pas être qu'un épiphénomène, comme si fatalement il y avait une explication à dégager un sens, à dégager des apparences. Et surtout, pour le propos que je veux tenir ici, cette recherche d'un sens ajouté est à haute teneur normative. C'est-à-dire qu'elle ouvre à une évaluation et à une prescription. Elle ouvre doublement à une évaluation et une prescription. Le lien qu'on établit, que ce lien soit la rhétorique incendiaire des républicains ou la culture des armes, ce lien est établi pour le critiquer, pour le juger négativement et pour rappeler à son abandon. Hein? Du même mouvement, on se situe dans une perspective qui est éminemment normative. J'en arrive à mon deuxième point, l'extension de la communication au détriment de l'information. Au dire de plusieurs analystes, il y aurait actuellement un certain mouvement d'accroissement de l'importance de la communication, certains mouvements qui seraient aussi en correspondance avec une diminution de l'importance de l'information. En quelque sorte, par un jeu de vases communicants, la communication prendrait plus de place, alors que l'information tendrait à s'effacer. Je voudrais traiter de deux formes que m'apparaît prendre ce mouvement. D'une part, la communication prend le pas sur l'information, c'est-à-dire la supplante, et d'autre part, elle transforme même l'information. Alors, premier point, la communication qui supplante l'information. Jusqu'aux années 70, environ, à peu près, l'information était le pivot essentiel de la médiation sociale. L'information était le pivot essentiel de la médiation sociale, tant sur le plan pratique que théorique. Les rapports sociaux, la diffusion masse médiatique, ainsi que l'aménagement institutionnel et organisationnel étaient faits autour de l'information, du processus d'information. Depuis, le souci informationnel s'est en quelque sorte estompé au profit d'une préoccupation plus communicationnelle. Il importe davantage aujourd'hui d'établir et d'entretenir des liens et d'échanger que de transmettre. Les réseaux sociaux ne sont que le dernier en date des phénomènes illustrant ce mouvement. Un symptôme assez clair de cette évolution est la profonde modification du mode d'intervention dans les débats publics. Il n'y a pas si longtemps, le journalisme occupait une place prépondérante dans la discussion des enjeux sociaux. On peut même dire que les journalistes en étaient les uniques relais. Ils n'en sont aujourd'hui que des agents parmi d'autres. Les pratiques de relations publiques, de marketing social et des diverses formes de communication de défense d'intérêts se sont immiscées dans l'espace public et en ont fait un forum qui est aujourd'hui davantage communicationnel qu'informationnel. Les journalistes ne sont plus les seuls animateurs de l'agora, mais doivent partager cette fonction avec toutes sortes d'autres communicateurs. Et plus que ça aujourd'hui, précisément avec les réseaux sociaux, les journalistes doivent tenir compte, pas juste des autres communicateurs ou établissent, construisent l'information, mais aussi relativement à tout citoyen qui veut, d'une façon ou d'une autre, intervenir via les réseaux sociaux dans l'espace public. Deuxième point, la communication qui transforme l'information. Pendant longtemps, la transmission de l'information a été faite en accordant une importance plutôt marginale au mode de livraison. Maintenant, une considération aussi grande est accordée à la forme qu'au contenu. Encore à ce propos, l'exemple du journalisme est particulièrement probant. Le passage du modèle de la presse écrite au modèle de la télévision a petit à petit entraîné une intégration forte au journalisme, d'abord de l'image, ensuite de la spectacularisation, du direct, aujourd'hui de la participation dite citoyenne. Aux yeux de plusieurs, cette communicalisation de l'information journalistique l'aurait pervertie. Ceux-là se désolent du trop-plein généré par le gigantesque tam-tam médiatique. Je reprends l'expression de Marcel Gauchet. Le gigantesque tam-tam médiatique qui paradoxalement fait obstacle à l'information et à la compréhension. Mes deux collègues, Jean de Bonville et Jean Charron, ont développé à ce propos une théorie de l'évolution du journalisme sur le modèle de la structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn et prétendent que nous en serions aujourd'hui à un passage entre un paradigme du journalisme d'information à un paradigme du journalisme de communication. Une sorte de mutation de l'information vers la communication, si vous voulez. Cette extension, je ne veux pas la démontrer plus avant. En fait, je la considère comme un point de départ, un fait établi. Je vais plutôt m'efforcer de tenter de montrer qu'à la faveur de cet accroissement de la communication au détriment de l'information, que c'est à la faveur de cet accroissement qu'émerge la prédominance de l'expression de conviction sur l'argumentation et l'affaissement de l'éthique en moralisme, l'affaissement de l'éthique en moralisme que j'ai caractérisé au point de départ. Plus précisément, je voudrais vous proposer l'idée que c'est en raison du rapport dissemblable à la réalité qu'entretiennent la communication et l'information que s'opèrent les deux glissements que j'ai évoqués. L'information et la communication ne découlent pas des mêmes a priori et n'ont pas les mêmes conséquences, les mêmes incidences ontologiques. L'information procède d'un principe réaliste. Elle pose l'information, ou plutôt elle présuppose l'existence d'une réalité logiquement préalable qui détermine son contenu. Informer, c'est toujours de quelque façon rendre compte d'un état de choses antérieur. Si vous voulez, on peut le schématiser toujours en information. De la façon suivante. Une nouvelle est toujours en relation logique à un événement. Une nouvelle présuppose toujours un événement qui donne lieu à la nouvelle. La nouvelle construction du journalisme présuppose toujours un fait antérieur qui, évidemment, peut être aussi lui-même construit, n'empêche que, logiquement, il y a cette relation de dépendance de la nouvelle vis-à-vis l'événement. De son côté, la communication garde la réalité à une plus grande distance. Elle prend en compte le réel, mais de façon plus large que l'information, du fait qu'elle est affaire moins de contenu que de relation. Dans la communication, nous l'avons dit, c'est l'interrelationnel qui prime. Le plus important, c'est la liaison, la rencontre, le dialogue. On pourrait même aller jusqu'à dire que ce qui est communiqué dans la communication n'est pas essentiellement un contenu, en tout cas pas uniquement un contenu, mais des aspects relationnels de l'échange. Il me semble que c'est tout à fait ce que cherchait à signifier McLuhan il y a longtemps, quand il prétendait que le message, c'est le média. Cela est visible, entre autres choses, par le fait que l'information est essentiellement unidirectionnelle, alors que la communication est intrinsèquement bidirectionnelle, même multidirectionnelle. La communication n'est pas soumise à un principe réaliste. Elle procède partiellement d'un principe constructiviste, au sens où la réalité y est, en communication, pour une certaine part instituée, alors qu'elle constitue le point de départ primitif et indépendant de l'information. La communication construit une réalité nouvelle. Plus précisément, la communication est un lieu de co-construction de réalité. C'est ce qui fait d'ailleurs que la communication est un moteur essentiel de la construction sociale. La réalité institutionnelle a pour condition la communication. Comment, dans l'extension contemporaine de la communication au détriment de l'information, le rapport distinct à la réalité des deux registres entraîne-t-il la prédominance de l'expression de conviction sur l'argumentation et le glissement de l'éthique vers le moralisme? Eh bien, de la façon suivante. D'abord, le principe ontologique réaliste du régime de l'information impose une rigueur dans la démonstration. La présupposition d'une réalité préexistante du fait qu'elle soumet le propos à l'objectivité et à la vérité oblige par le fait même à la preuve. Celui qui informe ne peut pas se contenter de mettre de l'avant l'information. Il doit être en mesure, en principe, de lui fournir quelques fondements. Son interlocuteur ou son auditoire, à celui qui informe, l'interlocuteur ou l'auditoire est en droit de requérir une explicitation des motifs ou des raisons de l'affirmation de l'information. En journalisme, par exemple, une nouvelle doit pouvoir être de la sorte étayée, et c'est par cette contrainte que s'impose en journalisme le principe de vérification, importé d'ailleurs des sciences. Ce n'est pas du tout le cas dans un environnement communicationnel. La communication n'exerce pas la même pression sur le propos que l'information. Plus libre par rapport à la réalité, ou plutôt lieu de co-construction d'une réalité, elle offre la communication une marge de manœuvre expressive beaucoup plus large. Indigente quand prévaut l'information, l'opinion sied parfaitement bien à la communication. Quand l'important est l'interactionnel et l'intersubjectif, la discussion autour des enjeux sociaux peut parfaitement se cantonner à l'échange d'appréciation personnelle. Par ailleurs, l'information, qui en vertu de son principe réaliste implique l'admission de la primauté du réel, ouvre à la rationalité éthique. Son principe réaliste conduit à la reconnaissance de la possibilité même de l'éthique comme connaissance du bien, et par là à l'établissement du pôle universaliste que j'ai caractérisé tout à l'heure quand il a été question du paradoxe en éthique. En fait, ce n'est pas tant que l'information implique l'éthique, mais dans la perspective tout à fait inverse, que l'éthique au sens fort nécessite un point de vue informatif et le réalisme correspondant. Pour que le projet éthique, c'est-à-dire le projet d'une science du bien, soit envisageable et même praticable, il est nécessaire que le bien soit considéré comme étant au moins partiellement de nature objective, qu'il ne dépende pas totalement, uniquement d'une adhésion personnelle. Pour le dire à un plus haut niveau de généralité, dans la mesure où l'éthique se veut une entreprise cognitive, elle doit être également informative, et doit aussi lui être appliqué le principe réaliste de l'information. Une connaissance éthique, une véritable connaissance éthique, n'est possible que si est reconnue une réalité morale. Il s'agit là d'un réquisite tout à fait et uniquement logique. D'un point de vue davantage empirique, on dira que la préoccupation éthique ne peut éclore et se développer que dans un milieu où l'information est un mode d'organisation. Sociologiquement, si vous voulez, l'information est une condition de possibilité de l'éthique. Ce n'est que dans une société de l'information que l'éthique peut émerger, comme volonté de connaissance du bien. Dans la perspective inverse, la communication, centrée sur le relationnel et les agents édifiant une nouvelle réalité construite, favorisent davantage la subjectivité, plus précisément l'intersubjectivité. Ce faisant, elles contribuent à une désobjectivation de la morale, désobjectivation plus ou moins relative de la morale, en amoindrissant l'importance de l'universalité en éthique et en intensifiant celle de la détermination des individus. Dans une société de communication, le bien ne s'impose pas de lui-même. Les règles et les normes de conduite perdent leur nature universelle, ou en tout cas voient s'estomper un peu leur nature universelle, et deviennent relatives aux personnes. L'une des manifestations les plus éclatantes de cette subjectivation est la qualification contemporaine, toute immanente des valeurs individualisées, ou au mieux intersubjectivisée, telle qu'elle cela s'exprime dans les expressions « ce sont mes valeurs » ou encore « nous partageons les mêmes valeurs », comme si les valeurs n'avaient d'existence que par ma subjectivité ou notre intersubjectivité. La communication tend à ravaler l'éthique au moralisme. Le moralisme communicationnel est en fait une renonciation à l'éthique, entendue au sens fort. Tout en alléguant maintenir sa visée, il en refuse l'exigence rationnelle et le réduit à la pure intuition. Ersatz de l'éthique, le moralisme donne bonne conscience et peut même verser dans un usage immoral de la morale. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vous demande d'attendre que je vous amène le micro pour des raisons liées à l'enregistrement à la fois de la conférence et des questions. Alors, traditionnellement, la première est la plus dure. Je peux me lancer éventuellement parce que vous avez abordé la question du format, à mon avis, qui est primordial. Qui fait que l'on glisse de l'information à la communication, sans aller, je dirais, à l'extrême. Moi, je considère que le format, vous avez parlé du passage de l'écrit à la télévision, etc., mais je pense que le format, non seulement Internet, mais le fait de la miniaturisation des instruments qui permettent d'accéder à la pseudo-information, finalement, fait qu'on privilégie la communication parce qu'on est sur des formats de plus en plus réduits. Au niveau de la télévision, on est sur de l'information flash systématiquement, et même lorsqu'on a des débats, les temps d'intervention sont très courts. Il est rare qu'on laisse à une personne comme vous le temps d'intervenir pendant 35-40 minutes. En général, on n'a pas le temps de développer un argumentaire. Et il faut intervenir pendant des temps très courts, de l'ordre de 1 à 2 minutes, grand maximum. Et sur la miniaturisation, bon, je suis comme les autres, j'ai un petit outil là qui s'appelle un iPhone, et je m'amuse à lire des nouvelles sur un iPhone. Il est clair que je ne vais pas lire un roman là-dessus, et que donc je vais me contenter effectivement plutôt d'éléments de communication que d'informations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou pas? Et où est-ce que cela va s'arrêter?
Ouais, c'est vrai que je n'ai pas donné intentionnellement, j'ai pas voulu recenser tous les facteurs par lesquels la communication à la fois supplante l'information et la transforme. Simplement parce que, je l'ai indiqué, le processus est en cours depuis quelques décennies. On ne peut pas ramener ça à l'époque toute récente. J'ai situé le début du tournant quelque part dans la décennie 70, et depuis, on ne peut qu'assister à l'apparition de beaucoup de facteurs qui viennent consolider cette transformation ou cette mutation. J'hésiterais à tomber dans un certain technologisme en voulant retenir comme facteur essentiel les nouvelles technologies, la miniaturisation, mais c'est évident que ça joue un rôle important, ne serait-ce que parce que la miniaturisation permet le déplacement individuel avec l'appareil, ce qui n'était pas nécessairement le cas d'appareillage plus complexe. Mais j'ajouterais d'autres, et le flash, hein, l'instantanéité est très certainement un autre facteur qui est lié d'ailleurs aux nouvelles technologies, parce que le flash n'est pas possible si les technologies n'existent pas. Je serais porté à dire, dans le fond, la nouvelle technologie est la condition de possibilité de cela. Mais ce n'est pas, encore une fois, l'unique facteur. J'en verrais d'autres, par exemple, de nature, je dirais, plus culturelle ou plus sociologique, mais tout est lié, évidemment. Deux me viennent à l'esprit. La mondialisation, l'un qui est relativement global, la mondialisation, Et puis, de nature davantage culturelle, je dirais, l'importance prise par l'urgence ou le sentiment d'urgence généralisé. Il y a aujourd'hui un sentiment d'urgence tel qu'il n'y a plus rien qui est urgent parce que tout est urgent à faire. Et ça, je pense que ça contribue beaucoup à favoriser l'extension de la communication et le décroissement correspondant de l'information. Alors, une multitude de facteurs. Certains sont matériels, tout ce qui relève de la technologie. D'autres sont davantage de nature culturelle, dans la mesure où ils dépendent de l'évolution de nos sociétés.
Oui.
Oui, bonjour. Un point dans votre raisonnement, je crois que vous avez en effet tout à fait raison de souligner que l'éthique n'est pas le lieu du bon plaisir, hein, comme on dit, c'est-à-dire que c'est en effet pas ces valeurs à soi qui tiennent lieu d'éthique en la question et que l'affaiblissement vers le moralisme est important. Mais quand vous en faites l'analyse en relation avec le passage de la société de l'info à la société de com, je me demande si on n'est pas déjà un peu en retard d'une analyse, pardon de vous le dire aussi sèchement, mais mais en plus gentiment, bien sûr. Mais je crois qu'on est passé, y compris maintenant, à un troisième niveau, c'est que cette société de communication, elle est devenue, vous faisiez allusion à la mondialisation maintenant, elle est devenue une société marchande. Je lisais l'autre jour avec beaucoup d'intérêt une petite chronique de Jean-Claude Guibaud, comme ça en l'air, dans laquelle il disait que la vérité elle-même était revisitée aujourd'hui par le caractère marchand de la société de communication. C'est-à-dire, après tout, on pourrait avoir une société de communication basée sur des rapports politiques, sur des valeurs de conviction, sur ce qu'on veut, etc. Et là, on est maintenant dans une société de communication qui est purement et complètement créé autour de la valeur marchande. C'est-à-dire que la vérité qui n'est pas vendable n'est même plus une vérité. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous essayez de vous mettre dans une perspective historique. D'abord, hein, comment on en sort de ça, est-ce qu'il y a d'autres prémices de la société de communication, et est-ce que son caractère quand même universellement marchand maintenant, avec la mondialisation, etc., est irréversible?
Oui, surtout, vous me demandez de vain ou de jouer les augures. Je pense que personne n'est actuellement en mesure de voir de quelle façon ça évoluera, ça se développera. On ne sait pas trop comment le dynamisme des sociétés humaines, parce que je pense que c'est ça qui est déterminant, va évoluer et de quelle façon ça va changer. De la même manière qu'il y a 30 ans, on ne savait pas que c'était pour se développer de la façon dont c'est devenu. Je voudrais juste, par rapport à votre introduction, en quelque sorte, au préambule de votre question, c'est que mon point de départ a été de chercher à mesurer des effets dans l'espace public du rapport entre communication et information, d'où l'accent que je mets là-dessus. Et en fait, si on voulait le présenter à rebours, c'est plutôt l'inverse qui, heuristiquement, s'est produit. C'est-à-dire que j'ai d'abord remarqué certains, un peu comme ça suit le développement de mon exposé, j'ai d'abord remarqué certaines caractéristiques de l'espace public contemporain, du débat contemporain, et j'ai cherché à les expliquer. Il m'a semblé qu'une des explications intéressantes allait du côté de l'information et des rapports entre information et communication. Alors, ma perspective était celle-là. Et pas une perspective autre, par exemple, celle de la marchandisation. Je vais réagir à la marchandisation en disant que je considère qu'on est porté à la surévaluer, ou à surévaluer cet aspect aujourd'hui, qui n'est pas d'ailleurs nouveau. Le reproche de marchandisation, s'il ne portait pas ce nom, ce n'était pas le terme de marchandisation. Vous avez compris. Si ce n'est pas ce terme c'est peut-être pas ce terme qui était utilisé dans des décennies antérieures, c'était quelque chose qui était assez synonyme. J'irais même plus radicalement plus loin. Je pense que les sociétés humaines ont toujours été animées par la marchandisation. Parce que les sociétés humaines ont toujours aussi eu comme moteur l'économie. Je pense que l'information
ou le registre d'information, ou ce que mes collègues de Bonville et Charon appellent le paradigme de l'information, était aussi marqué par la marchandisation. Merci. Dans la mesure où le journal, il faut bien le vendre. Et si on ne veut pas le vendre ni le donner, comme c'est aujourd'hui le cas, ben, il faut avoir de la publicité. Ça a toujours été un produit, d'une certaine façon. L'éducation a toujours été un produit. Et c'est, d'une certaine façon, inévitable que ça le soit. On ne peut pas échapper à l'incidence économique, pour le dire de cette manière-là. Et je ne suis pas persuadé, pour ma part, que c'est plus accentué aujourd'hui que ça l'était antérieurement.
Quand la presse était le produit d'hommes de presse hein, qui avaient envie de faire des journaux et qui ne cherchaient pas à avoir 15% pour les actionnaires, on était quand même avec des règles, notamment commerciales, moins fortes. Si aujourd'hui, dans la plupart de la presse française, d'abord un, s'il y a en France deux communicants pour un journaliste, grosso modo, hein, 39 000 journalistes, 78 000 communicants. Donc en effet, votre démonstration, elle est claire. Bon. Si on est quand même dans des endroits où la presse elle-même, où les empires de presse doivent maintenant générer du profit à fond la caisse, quand un certain nombre de fondateurs de la presse historique étaient des hommes de presse qui avaient envie de faire des journaux,
quoi, oui,
hein, et qui demandaient moins d'argent. Bon, aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher, enfin, tout ce qu'on veut, bon, etc. Ok, donc en effet, il y a quand même une pressurisation marchande, me semble-t-il, plus forte qu'il y a quelques siècles.
On ne peut pas nier ça, c'est évident. Le monde n'a pas la même facture, présentation maintenant qu'il pouvait l'avoir antérieurement. Bon, c'est vrai de tous les journaux. Mais cependant, même à l'époque, il devait bien le vendre. Et l'économie, enfin, c'est plus une transformation de l'économie qui a pu générer ces transformations dans la presse, mais c'est vrai, on ne peut pas nier ça. Reste à savoir si c'est un facteur déterminant. On le dit beaucoup aujourd'hui. Je m'inscris un petit peu en faux contre cela.
Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Il y a quand même une certaine évolution.
Attendez. Il faut que ça soit enregistré. Il faut que ça soit enregistré.
Ah oui. Merci. J'aime pas ça du tout. Il y a quand même une certaine évolution dans la presse. Vous parliez tout à l'heure du flash, de l'information, des successions de flash, etc. Quand vous prenez le métro à Paris le matin, puisque on ne reçoit que des flashs de l'information, tout le monde lit la presse gratuite. Il y en a 4 maintenant. Il y a 20 minutes, métro, il y a je ne sais pas quoi, ici le Grand Paris, etc. Pour moi, la presse n'a de sérieux que les quotidiens où l'on trouve une information raisonnée, intelligente, etc. Mais pour quelqu'un, mon impression, moi, c'est qu'il y a une certaine délitation de la qualité humaine et, comment dirais-je, la communication nous vole un peu notre propre opinion. Et en fait, surtout dans les débats politiques, sociopolitiques, si vous voulez, l'opinion du bon peuple, entre guillemets, cela soit dit sans être péjoratif, si vous voulez, pour la plupart, c'est la communication et l'information qui l'a fait. Alors, je trouve ça même assez grave de ne plus donner la spontanéité de l'opinion à l'individu. Et je pense qu'on gomme un peu l'individu avec ce surcroît de communication et cette profusion de matraquage. Voilà. Pourquoi les grands quotidiens ont des difficultés à survivre, Le Monde, les hebdos, etc., etc. Parce que, justement, l'information, on ne se satisfait désormais que de flash d'information. Et on a l'impression de connaître tout à partir du moment où on a lu les 15 pages de 20 minutes le matin dans le métro. Voilà. C'est un peu désolant, mais c'est comme ça.
Moi, je me suis efforcé de ne pas prendre là-dessus un point de vue normatif.
Vous dites, c'est désolant, vous n'avez pas entendu un terme comme celui-là dans ma bouche quand j'en ai parlé tout à l'heure. Je me refuse à adopter un point de vue où j'évaluerais les choses d'un point de vue estimatif, si vous voulez. Je me contente de faire le constat. Il y a plusieurs choses de ce que vous venez de dire qui sont tout à fait réelles. C'est vrai que la communication vient en masse, c'est-à-dire qu'il y a un surplus de communication. Maintenant, le rapport de la communication à l'opinion entendue au sens où vous me semblez l'entendre, c'est-à-dire la détermination de tout un chacun par rapport à ça, ça m'apparaît quelque chose de relativement complexe. D'abord, par rapport à la situation antérieure, il n'est pas sûr que l'information n'était pas aussi pesante sur l'opinion de l'individu que la communication peut l'être. Alors, je ne suis pas sûr que là, il y ait une vraie transformation. Deuxièmement, si la communication, me semble-t-il, ne peut pas totalement manipuler des êtres démunis face à elle. Si la communication exerce l'influence qu'elle exerce ou peut avoir le poids qu'elle a, c'est parce que, d'une certaine manière, elle sait rencontrer quelque chose comme les attentes ou les aspirations des individus. Les individus sont quand même un peu responsables. Ceux qui sont dans le métro les lisent, les quotidiens distribués gratuitement, comme vous avez fait mention. Ou ils doivent faire la démarche d'aller acheter tel ou tel média. Si le Parisien se vend bien par comparaison à d'autres quotidiens français, c'est parce que s'il occupe la place qu'il occupe, c'est parce que les gens la jettent.
Il est l'intermédiaire entre la presse gratuite et un quotidien comme Le Monde, par exemple, ou Le Figaro. Le Parisien,
oui.
Vous avez lu Le Parisien en 30 minutes.
Mais la raison du succès...
Il faut une demi-journée pour lire Le Monde.
Oui, bien sûr. La raison du succès des quotidiens gratuits, c'est la facilité. Je veux dire, tu rentres dans le métro, tu l'as, on te le donne, d'abord tu n'as rien à débourser, puis tu le trouves quand tu arrives dans la station de métro, plutôt que de regarder, de bailler aux corneilles durant ton trajet, ben, tu jettes un œil.
Il y a des gratuits qui paraissent deux fois dans la journée.
Ah ouais.
Direct matin et direct soir. Vous avez des informations différentes.
Oui, bonsoir. Vous avez montré donc la part prise par la communication donc depuis quelques décennies et son caractère de plus en plus efficace. Est-ce que dans une perspective optimiste, on ne peut pas dire qu'il y a là un nouveau territoire pour les journalistes, pour l'information, qui est de décrypter ce monde de la communication et de renvoyer à une lecture qui serait une lecture argumentée de ce monde-là.
Oui, mais je vais... De nouveau répéter, mon point de vue là-dessus n'est pas normatif. J'aurais peut-être dû tenter de le marquer davantage dans mon propos, mais même quand je parle de prédominance de l'expression de conviction sur l'argumentation ou de glissement de l'éthique au moralisme, je ne veux pas porter jugement, je veux constater les choses. Bon. Je prends la peine de souligner parce qu'il me semble qu'il y a une incidence normative dans la manière même dont vous formulez la question, comme si les journalistes devraient, étant donné le poids de la communication, s'y intéresser. Cela dit, je pense qu'effectivement, comme la communication, sous toutes ses formes, occupe l'espace qu'elle occupe aujourd'hui, ça devient un objet de préoccupation sociale qui normalement, sans que ce soit normatif, devrait faire retenir l'attention des journalistes comme d'autres grands secteurs de l'activité humaine. Oui, oui. Mais ça commence à se faire au moins dans certains médias. Hein. Il y a des quotidiens américains, puis même au Québec, ça se pratique je pense aussi dans des magazines français. Le retour sur la communication ou sur les médias. On n'a pas vu autant que ces dernières années cette sorte de retour réflexif. Ça commence à se faire. Et maintenant, à mon avis, très souvent, on se contente dans ce travail-là
de perception générale et d'idées reçues. C'est-à-dire qu'on dit des choses qui sont apparentes, on se limite aux apparences. Ce qui paraît le plus, et souvent l'analyse ne va pas finalement très loin. C'est peut-être assez normal dans la mesure où le phénomène est encore largement inexpliqué fondamentalement, mais on ne sait pas où précisément on s'en va. Mais les journalistes, en gros, on pourrait dire, quelle est la vocation des journalistes? La vocation des journalistes, c'est de s'intéresser à la société. Et comme c'est un fait de société, ils devraient effectivement s'y intéresser.
Est-ce que vous auriez un commentaire sur l'influence du temps politique sur cette tendance? Je m'explique. J'ai toujours été effrayé par le rythme, par exemple, des élections américaines, avec des élections qui reviennent avec une périodicité de 2 ans, 4 ans pour les présidents, mais 2 ans pour les parlementaires. Donc c'est vraiment très, très court.
Ouais.
Et une tendance que l'on connaît aussi maintenant en France, puisqu'on est passé d'un septennat à un quinquennat, absolument, ce qui est en train d'influencer le rythme de la vie globale. Alors je ne discute pas de l'intérêt d'avoir des alternances plus fréquentes, parce que bon, démocratiquement, on peut le soutenir, et je le comprends aisément. Mais d'un autre côté, ça a sûrement... j'ai l'impression, en tout cas, que ça joue un rôle sur ce glissement de l'information à la communication, parce qu'on est dans un rythme qui s'accélère sur ce plan-là. Or, ça influence grandement le comportement sociétal.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a là quelque chose à analyser en profondeur. En fait, aux États-Unis, c'est même pire d'une certaine manière que vous l'avez, que de la façon dont vous l'avez décrit. En ayant des élections aux 4 ans, ils sont quasiment perpétuellement en campagne présidentielle. C'est-à-dire, un président entre en place... Il y a 2 ans pour prolonger son élection, puis après 2 ans, il doit plus ou moins commencer déjà à se remettre en campagne. Alors, c'est pas juste que c'est entrecoupé des élections au Sénat et à la Chambre des représentants, c'est la périodicité même c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un peu étonnant que vous passiez du septennat au quinquennat, parce qu'il y avait quelque chose comme une durée qui était... plus marqué. Oui, mais le temps s'est contracté. Le temps passe plus vite aujourd'hui qu'il passait antérieurement. Et fatalement, ça contribue à... Quand on n'a pas le temps de bien réfléchir, ça contribue même à ce que j'essayais d'avancer. Si on n'a pas beaucoup de temps pour analyser et réfléchir, on est porté à émettre davantage d'opinions que d'arguments.
D'autres questions, commentaires?
Bonsoir. Moi, je voudrais revenir à des notions plus simples pour mieux comprendre votre propos. Comment définirez-vous une information et une communication? Est-ce qu'une communication n'est pas une information en soi? Une information n'existerait pas telle sans un projecteur, un coup de projecteur dessus que ferait la communication? J'ai l'impression que, d'après votre propos, que vous n'êtes pas un fervent défendeur de la communication et ça me gêne un peu parce que c'est un peu ça va être mon futur métier, du coup je me sens un peu inutile. Mais j'aimerais bien revenir à des notions de base. Qu'est-ce qu'une information? Qu'est-ce qu'une communication? Qu'est-ce que l'utilité de la communication vis-à-vis de cette information-là? Merci.
Comment dire d'abord? Mon point de vue ne se voulait pas critique. Et puis, je ne voudrais pas vous décourager dans votre vocation communicationnelle. Je m'attendais à la question. Je veux dire, toute information, en quelque sorte, pour accomplir véritablement sa fonction, doit être mise en communication. Et est-ce qu'on peut considérer à l'inverse que toute communication est une communication de quelque chose? Alors oui, c'est vrai que les deux notions sont intégrées l'une à l'autre. Je pense que ce n'est pas pour rien que c'est censé, que c'est justifié qu'on ait deux termes. On a quand même deux concepts qui prétendent référer à deux réalités différentes, même si les deux concepts peuvent être à certains égards intégrés, que les réalités sont,
se télescopent l'une l'autre. Ma distinction relativement au rapport à la réalité, me semble fondée. Je pense que si on envisage les choses, j'ai employé le terme de registre. On est dans un registre d'information, on est dans un registre de communication. Il me semble qu'une des façons de marquer la différence, c'est que communication, information, communication n'entretiennent pas le même type de relation avec le réel. Bon, j'ai essayé de l'expliciter, mais c'est pas, comment dire, c'est pas la première façon de marquer cette distinction-là depuis qu'existe ce qu'on appelle plus volontiers en France les sciences de l'infocom. On utilise moins chez nous ce terme-là. On a toujours cherché à mettre en évidence des distinctions entre l'information et la communication de différentes manières. Le trend, pour ainsi dire, la tendance contemporaine consiste à valoriser l'information ou à dévaloriser la communication, puis prétendre que la communication, d'une certaine manière, dénature l'information. Ce point de vue n'est pas partagé par tout le monde. Dominique Volton prétend, lui, que c'est la communication qui est en danger, que c'est le manque de communication, hein, d'une certaine manière, il prend tout à fait le point de vue inverse, que c'est le manque de communication qui fait problème aujourd'hui. Bon. Il y a des différences, malgré le fait que les deux concepts sont apparentés, il y a des différences. Une des différences, c'est le rapport à la réalité, c'est ce que j'ai cherché à illustrer. Ne vous posez pas trop de questions existentielles par rapport à votre vocation de communication. Il se trouve qu'il y en a beaucoup de communication de toutes sortes aujourd'hui. On ne voit pas le jour d'ailleurs où ça va se terminer.
Oui, vous nous avez beaucoup parlé de la sphère publique. J'aurais voulu savoir ce qu'il en était, si vous aviez des informations concernant le domaine des sciences ou à l'école. Est-ce qu'on constate également ce basculement de l'information vers la communication dans sur ces places?
Ça ouvre, je pense, à une préoccupation qui est tout à fait intéressante. La première, en tout cas. Vous avez parlé de la science et de l'école. Je pense que ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Il me semble y avoir, aujourd'hui, socialement, une sorte de déconsidération de la science. En partie, et pas totale, hein, c'est pas, il n'y a rien de... Oui, bien sûr, il y a des choses comme l'espace Mendès France, puis il y a d'autres activités où on valorise la science, mais il y a quand même, de façon latente, une sorte de d'anti-scientisme qui correspond, dans un ordre différent, à un anti-intellectualisme, qui, encore une fois, lui non plus, n'est pas dominant. Et à mon avis, en bonne partie, parce que la science échappe encore pour beaucoup à l'emprise de la communication que j'ai cherché à décrire. C'est vrai qu'il y a des initiatives de vulgarisation, de communication scientifique, de médiation de la science, mais les scientifiques se préoccupent essentiellement de faire de la science. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des scientifiques qui ne s'intéressent pas à la médiatisation scientifique ou à la vulgarisation ou à la communication scientifique. Ce faisant, d'ailleurs, ils cessent la plupart du temps de faire de la science. Un peu comme les scientifiques qui s'intéressent à l'épistémologie ou à la philosophie des sciences bifurquent à un moment donné. Ils ne font plus de la science, ils font de la philosophie des sciences. Alors là, la science a un statut un petit peu, je dirais, particulier. De mon point de vue, je me trompe peut-être, mais moi, ce qui me frappe davantage, c'est comment la science est en marge de ce mouvement-là. En gros, la science se développe en échappant à ce dont j'ai cherché à parler. La science elle-même, hein, le travail des scientifiques qui progresse dans l'accroissement des connaissances. L'école, j'en suis moins sûr. En tout cas, chez nous, je pense que l'école, même on pourrait, sous réserve d'analyser les choses de manière un peu plus précise, considérer qu'elle est très, très affectée par l'extension de la communication au détriment de l'information. Il y a des programmes, en tout cas chez nous, on fait des révisions de programmes qui insistent moins, et c'est vrai, là, de la maternelle à l'université, qui insistent moins sur la transmission du savoir, ce que devrait être fondamentalement, me semble-t-il, l'éducation, hein, qui insistent moins sur la transmission du savoir que sur la relation qui devrait s'établir entre le prof et les élèves ou les étudiants. Moi, personnellement, dans mon université, je fais occasionnellement face à cette position qui consiste à dire nous allons progresser en connaissance en partageant, en se communiquant l'un, les uns les autres ce qu'on sait. Et je réagis à cela en disant écoutez, si j'en savais pas un petit peu plus que vous autres, et je ne vois pas pourquoi je serais ici et pourquoi on me paierait pour livrer ma connaissance. L'éducation, si on veut le dire comme ça par rapport aux deux registres que j'évoquais, me semble être par nature, par définition, davantage une entreprise d'information que de communication. Et quand on cherche à la transformer, à mon avis, c'est le cas, on cherche à transformer davantage, c'est pas total, mais au moins en certains lieux, c'est le cas chez nous, en introduisant des programmes qui vont, par exemple, j'ai des enfants, moi, qui étaient à l'école jusqu'à tout récemment, qui vont, par exemple, jouer sur les compétences dites transversales plutôt que sur un savoir donné. Hein, on est en plein registre de communication plutôt que d'information. Alors, au total, oui, ça, c'est, de ce point de vue-là, je pense que l'école, la situation est différente de celle de la science. L'école qui se pratique est de la science qui se pratique, mais je suis peut-être tout à fait hors jeu en émettant cette considération-là. Moi, c'est le peu que je connais du travail des scientifiques. En particulier, ici, c'est un des rares contacts. Ici, je suis invité par la Faculté des sciences. Quelqu'un qui est en infocom est invité par la Faculté des sciences à venir donner des enseignements. Ce que j'ai pu constater, c'est que et j'en ai pas été scandalisé, j'en ai été plutôt rassuré, c'est que les scientifiques, quand ils font leur boulot, ils s'en préoccupent pas trop, ni de l'argumentation, ni de l'information, ni de la communication, ils cherchent à avancer. Alors, souvent, ça leur attire socialement une critique de la tour d'ivoire. Vous restez dans votre tour d'ivoire. Mais je pense que les scientifiques devraient la revendiquer, la tour d'ivoire. Comment on peut progresser en science si on n'est pas dans un peu retranché, un peu dans la tour d'ivoire par rapport aux préoccupations sociales. Je pense que la science y échappe, enfin, plus que l'école. Mais vous voyez, ça, c'est des questions tout à fait intéressantes à creuser. Il faudrait faire des analyses plus poussées. Là. Vous me posez la question, PHO, je vous livre des impressions pré-critiques, à la limite pré-analytiques.
Je me permets de réagir en tant que scientifique.
Bien sûr. Je m'y attendais.
Je suis contre la tour d'ivoire, malgré tout. Pour une raison aussi sociétale, qui me paraît importante, c'est que la science reste encore largement financée par le contribuable et de l'argent public.
Bien sûr.
Et donc, il y a un retour obligatoire vers l'argent public, alors, vers le public. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'existent des centres comme le nôtre ici. Et c'est pour ça aussi qu'on sollicite les scientifiques pour qu'ils y viennent. Mais il n'empêche qu'il faut des médiateurs. Et là, je vous rejoins. Ça n'est pas le scientifique qui, directement, a l'aptitude et le temps, d'ailleurs, pour communiquer sur ses résultats vers l'extérieur. Donc, je me suis toujours battu contre la tour d'ivoire et je continuerai jusqu'au bout. Ça me paraît important. Par contre, où je suis d'accord avec vous, c'est que, professionnellement, l'échange de résultats, la façon de travailler des scientifiques a relativement peu bougé. Et alors, en termes de journaux et d'informations scientifiques professionnelles, c'est au contraire une explosion, puisqu'on a de plus en plus de journaux scientifiques et un format qui n'a pas vraiment changé. Moi, j'ai 40 ans de carrière, pratiquement, et je n'ai pas vu trop d'évolution. Alors, évidemment, on peut regarder à la marge. Il y a des changements. Hein. Aujourd'hui, on a des classements de journaux, des choses qui existaient peut-être un peu moins avant. Néanmoins, fondamentalement, ça n'a pas changé. Alors, un des soucis je crois que l'on a, alors en particulier dans mon domaine, qui est le domaine de la biologie, c'est justement la sortie de l'information quand elle va vers le public. Avec un danger majeur, c'est que ça soit de la communication et pas de l'information, justement. Mmh. Et parce qu'il y a un retour qui est terrible, c'est-à-dire que de croire qu'on va guérir telle ou telle maladie en deux coups de cuillère à peau, alors qu'il y a encore 20 ans de travaux, ou que telle molécule va guérir tous les cancers alors qu'elle n'a encore pas fait ses preuves, etc. Donc là il y a un vrai danger. C'est pour ça qu'il faut des médiateurs qui soient qualifiés pour arriver à porter l'information.
Je me suis exprimé de manière un peu radicale pour marquer le coup, mais je ne suis pas contre la communication scientifique. Cependant, je réagirais à votre propos en disant l'obligation essentielle qui me semble résulter du financement public, c'est la recherche et la découverte, pas la communication dans le public. J'ai développé un petit exemple par rapport à ça, par rapport à l'engagement social du scientifique. Comme individu, aucun problème, mais je veux dire à titre de scientifique. Marx a eu de l'importance, il y en a moins maintenant, c'est sûr, mais il a eu l'importance historique qu'on lui a reconnue, pas en raison du manifeste du Parti communiste, en raison du Capital. Le manifeste du Parti communiste, un petit fascicule d'engagement très marqué, très ponctuel. Le Capital, c'est un rayon de bibliothèque qu'il a pris 20 ans à écrire en s'enfermant précisément dans une bibliothèque. Et c'est le Capital qui a changé le monde au moment où il l'a changé à l'époque, pas le manifeste du Parti communiste. Ce que je pense vaut d'ailleurs pour l'ensemble des intellectuels, pas seulement pour les scientifiques au sens strict. Je pense que le principal engagement de l'intellectuel n'est pas nécessairement un engagement social. S'il le désire, il peut s'engager socialement. Si l'individu, hein, on a plusieurs chapeaux, on est parent, on est professionnel, on est individu, on est citoyen. Si l'individu, comme citoyen, veut s'engager, tout le monde a droit. Mais l'intellectuel n'a pas pour moi une obligation à s'engager plus forte que le plombier ou le pompiste ou le technicien du son. On peut diverger de
plus. Oui, non, mais sans diverger vraiment. Moi, je vous répondrai sur ce plan-là qu'il ne peut pas y avoir d'information s'il n'y a pas de résultats scientifiques.
C'est vrai.
Voilà, donc ça va de pair. Non, pas d'autres questions. Si.
Je vais être volontairement extrémiste. J'ai l'impression que l'information tend vers la désinformation et même la propagande. Qu'en pensez-vous?
Je serais porté à élaguer la notion de propagande. Enfin, je veux dire, par rapport à la question, par rapport au souci que j'ai eu de développer quelque chose au sujet de l'information et de la communication, la propagande, c'est, une manipulation, une tentative de manipulation totale, intégrale de l'information. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça se situe à un autre niveau que la désinformation ou la mésinformation. Mais je vais même saisir la balle au bon pour accentuer ce que j'ai souligné comme principe réaliste de l'information. Toute initiative d'information risque de connaître l'échec, intentionnel ou non, pour un certain nombre de raisons. L'une de ces raisons, c'est que l'information est fausse. Mais qu'est-ce qui nous permet de déterminer si l'information est fausse? C'est précisément le rapport à la réalité. Ma nouvelle est fausse si il n'est pas exact que l'événement s'est produit ou que l'événement ne s'est pas produit comme en rencontre ma nouvelle. La déviance, l'échec de l'information, la désinformation intentionnelle ou la mésinformation dépend d'une distorsion de ce rapport à la réalité, enfin de la nouvelle à l'événement. Alors, d'une certaine façon, il ne faut pas trop s'en étonner, s'en scandaliser. Je veux dire de la mésinformation, en tout cas de la mésinformation, parce que c'est un risque qui est inhérent. Quand on informe, on peut se tromper. Il y a des journalistes qui, en toute bonne foi, on fait des nouvelles, puis des médias qui, en toute bonne foi, ont diffusé des nouvelles qui se sont avérées fausses. Là où, évidemment, ça devient plus problématique, c'est quand c'est fait intentionnellement. Mais le fond de la question, sur le plan logique, est le même, c'est-à-dire un rapport faussé à un événement où intervient la question de la vérité. Incidemment, juste avant de poursuivre, je fais une petite parenthèse. Quand je viens en France, j'ai constaté depuis l'époque où je viens ici que c'est toujours un peu risqué de parler d'objectivité et de vérité. Il y a une sensibilité intellectuelle, en particulier relativement à l'information et à la communication, qui considère que l'objectivité, ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas de vérité, mais des vérités. C'est un peu surprenant que personne n'ait réagi à la petite incursion que j'ai faite de ce côté-là. Mais moi, je pense que la notion de vérité, bien entendue, bien comprise, qui est relative à ça, est tout à fait valable. La vérité, c'est quoi? C'est quand il y a correspondance entre la représentation que me donne une nouvelle d'un état de choses et la réalité. C'est tout. Ce n'est pas très original, hein, ma réponse à votre question, très large sur la désinformation. Mais je n'ai pas grand-chose non plus d'autre à dire que cela.
Bien. Écoutez, s'il n'y a plus d'intervention, il me reste à vous remercier encore une fois d'être venu partager ce moment avec nous.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie. Et donc, j'espère que l'on vous comptera parmi nous l'année prochaine.
Ouais, je pourrais revenir.
Si vous êtes aussi encore invité par la Faculté des sciences
ou
d'autres secteurs de l'université où vous avez sûrement votre place. Merci à tous et à bientôt.